Vous écoutez
RMC. RMC, midi, 14h, Neumann Le Chypre.
Laurent Neumann, Emmanuel Le Chypre et Laure Clauzier.
Salut les amis, très heureux de vous retrouver et on va débattre. Et oui, je peux vous dire que même ça va débattre sévèrement. C'est Laurent Neumann.
Bon appétit tout le monde, c'est Emmanuel Le Chypre.
Bonjour à tous, c'est Laure Clauzier. On est ensemble jusqu'à 14h sur RMC Story. Le nombre de morts sur les routes ne baisse pas. Alors que faire? Les radars sont-ils encore la solution? C'est notre question jusqu'à 14h.
Oui, et tu vas nous parler des notaires après.
Oui, c'est les notaires à 13h50. Et on est vendredi absolument, ils répondent à toutes vos questions. Aujourd'hui, c'est Boris Vienne qui répondra à la question de Clotilde qui nous dit: mon conjoint et moi sommes pacsés depuis 4 ans, on veut se marier, est-ce qu'il faut qu'on passe obligatoirement chez le notaire? Ça sera tout à l'heure. Mais avant, on va parler sécurité routière. L'efficacité des politiques de sécurité routière en France a atteint depuis 2013 un plateau. C'est la Cour des comptes qui nous le dit. La mortalité routière, grande cause nationale depuis 99, a drastiquement chuté en un demi-siècle sur les routes de France. On est passé de 18 000 morts à 3 500 en 2019. La baisse s'est particulièrement accélérée entre 2008 et 2013. Mais depuis, ça stagne en France. On a même dégringolé dans le classement européen. On est passé du 7e au 14e rang. Alors la Cour des comptes cible une doctrine française centrée par défaut, dit-elle, sur le comportement des usagers, notamment sur la question de la vitesse et des radars. Un rapport qui fait très plaisir à Pierre Chasseret, délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes. Il avait l'impression qu'il prêchait dans le vide, et bien désormais il est à la Cour des comptes avec lui.
Tous les ans, depuis 9 ans maintenant, je passe pour un imbécile lorsque je dis qu'il est temps de changer de modèle de sécurité routière, parce que les radars, pour reprendre l'expression, et là je modifie un peu, ça flash. Mais ça ne fonctionne plus. C'est-à-dire que très clairement, il n'y a plus de baisse structurelle des chiffres de la sécurité routière parce qu'on a poussé le bouchon trop loin.
Alors, pour défendre les radars, pour savoir s'ils sont encore la solution, Laurent, toi, toujours dans le camp des radars.
Ah bah moi, je pense que les radars sont utiles. Je pense même qu'il n'y a que la peur du gendarme qui fait un peu réfléchir les gens sur la route. Pas tous les gens, hein, la majorité des gens conduisent correctement, mais les chauffards, les vrais, oui, il n'y a que la peur du gendarme qui les fait lever le pied. Et en tout cas, faire attention. Mais et quand même, quand j'ai lu ce rapport, je me suis dit, mais de quoi elle se mêle, la Cour des comptes? Elle est devenue donc spécialiste de la sécurité routière, la Cour des comptes. Alors, puisqu'elle veut des comptes et des chiffres, je vais vous en donner quelques-uns. Est-ce que vous savez combien coûte l'insécurité routière chaque année? Est-ce que vous avez une idée du chiffre?
Non.
44 milliards d'euros. Je peux même vous donner des précisions. Le coût des blessés qui sont hospitalisés, c'est 18 milliards d'euros. Le coût des blessés légers, c'est 4 milliards d'euros de plus. Et vous ajoutez le coût des réparations, le coût des assurances, etc., 44 milliards. 44 milliards. Et on ne dépense chaque année que 3,5 milliards d'euros pour la sécurité routière. Alors on me dit, les radars, c'est pas fait pour faire baisser le nombre d'accidents sur la route. C'est fait pour prendre l'argent du contribuable. Vous savez combien ça rapporte, les radars? 700 millions. 44 milliards d'un côté, 700 millions de l'autre. Donc où est-ce que l'État s'enrichit avec les radars? C'est une blague. Et enfin, dernier point, est-ce que les radars ont fait baisser les accidents sur la route? Mais la réponse est oui, les radars ont été mis en place en 2003. Autour des radars, l'accidentologie a baissé de 66%. Il y a 66% d'accidents en moins là où il y a des radars. Et je peux même aller plus loin. Entre 2003 et aujourd'hui, on a à peu près épargné 40 000 vies sur la route. Alors évidemment, les radars ne sont pas les seuls responsables. Mais les radars, ajoutés à la qualité des infrastructures, à tous les efforts qu'on a fait sur les voitures, etc., bah, tout ça mis bout à bout, oui, on a fait baisser l'insécurité routière. Mais supprimer les radars demain et vous refaites de la route une jungle. Voilà, c'est quand même pas très compliqué à comprendre.
Emmanuel, tu es comme Pierre Chasseret, tu te sens épaulé par la Cour des comptes.
Non mais parce que la Cour des comptes dit ce que je n'ai pas arrêté dans les multiples émissions qu'on a fait sur le sujet, c'est-à-dire que il faut arrêter cette logique du tout répressif. C'est ce que dit la Cour des comptes. Alors quand Laurent, je comprends bien que ça le gêne, quand la Cour des comptes dit le contraire de ce qu'il pense, de quoi elle se mêle, etc. D'abord, je te rappelle que la Cour des comptes, son métier, c'est d'évaluer l'efficacité des politiques publiques. Voilà, donc la politique des radars, effectivement, et la sécurité routière, ça fait partie de ces missions d'évaluation.
Je fais juste, je t'interromps jamais, mais là, je fais juste une petite.
T'en prie, Laurent,
exceptionnellement, je voudrais t'interrompre.
Je mets mon clignotant et je me range.
Voilà, juste un mot. La Cour des comptes, elle dit en gros, depuis une dizaine d'années, les radars ne font plus baisser significativement le nombre de morts sur la route. Elle a juste oublié un petit détail, toi qui es un spécialiste des études et de la qualité des études, elle a oublié un détail, elle n'a pas pris en compte l'augmentation du trafic depuis 10 ans. Donc elle rapporte le nombre de morts aux millions d'habitants, mais elle a oublié de rentrer comme facteur aggravant l'augmentation du trafic routier.
Comme
je ferme la parenthèse.
Non, comme toutes les statistiques sur la route, sur les 80 km/h, etc.
Oui, là, tu prêches un convaincu qui dit qu'on.
Et là, tu ne pourras pas me reprocher de ne pas être un éminent critique de toutes les statistiques.
Donc, tu devrais prendre le rapport de la Cour des comptes avec des pincettes.
Pas du tout, Laurent, parce qu'il y a un point que tu ne peux pas retirer à la Cour des comptes, c'est que le trafic, il augmente de façon absolument continue et régulière depuis des années, voire des décennies, et que l'inversion de tendance, elle est réelle. Donc, il ne s'agit, alors évidemment pas, ne caricaturons pas, il ne s'agit évidemment pas de dire que les radars ne servent à rien. Ce qui est critiqué par la Cour des comptes, et ce que je critique depuis longtemps, c'est cette idée que on est dans la politique du tout répressif. C'est-à-dire qu'on ne se préoccupe que de sanctionner la vitesse, notamment à travers les radars. Or, je rappelle que la vitesse n'est responsable que de 27% des morts.
Un tiers.
Sur les routes, et que les graves excès de vitesse, c'est ça qui est responsable des accidents. Or, si vous prenez la moitié des excès de vitesse, ils se situent entre 1 et 5 km/h. Donc, bien évidemment qu'il faut lutter contre la vitesse. Ce que dit juste la Cour des comptes, c'est qu'on est au bout de cette logique totalement répressive et qu'il faut aller vers d'autres politiques qui sont des politiques. Et d'ailleurs, ce que dit la Cour des comptes, ce qui est le bon sens même, inspirez-vous de ce qui marche à l'étranger et qu'on ne fait pas en matière d'entretien des routes, en matière d'organisation des infrastructures, en matière d'éducation. Alors je vous donne plein d'exemples de ce qui marche à l'étranger et qu'on ne fait pas en France. Des passages piétons en diagonale par exemple. Il y a plein de pays dans lesquels maintenant les passages piétons sont en diagonale et c'est effectivement plus efficace pour éviter les accidents. Les dispositifs anti-contresens sur les autoroutes, les séparateurs sur les routes à double sens, les autoroutes gratuites. Ça c'est quelque. Alors là c'est quelque. Mais on va pas. C'est pas notre sujet.
Non, merci de balancer.
Les aires pour les téléphones et les SMS, les feux impossibles à masquer. Moi j'ai pris 4 points un jour de retrait parce que j'ai grillé un feu rouge. Pourquoi j'ai grillé un feu rouge? Parce qu'il y avait un car devant le feu. Et que je n'allais pas attendre des heures que le car parte pour pouvoir passer. Et donc je suis passé malencontreusement au feu rouge et je me suis fait griller par la police. Des feux impossibles à masquer, ça marche à l'étranger. En matière d'équipement, rendre obligatoire les caméras de recul en ville, les infrastructures adaptées à tous les modes de transport, les stations
de
pompage,
les pneus en libre service. En gros, c'est ce que dit la Cour des comptes.
Mais bien sûr que oui, il y a plein d'autres choses à faire en matière d'éducation et d'aménagement des routes notamment pour diminuer.
Est-ce que tu pourrais dire à tous ceux qui nous écoutent que tu es contre la suppression des radars?
Mais bien évidemment que je suis.
Voilà, c'est
la
tout ce que je voulais t'entendre dire.
Mais la Cour des comptes te dit pas qu'il faut supprimer les radars. Personne te dit et je ne t'ai jamais dit qu'il fallait supprimer les radars. T'ai dit que considérer que la prévention routière, l'alpha et l'oméga, c'était de toujours multiplier les radars.
Tu sais quoi, on va pas être loin d'être du même avis alors.
Ah ben bah, il est que 13h11.
Si tu es d'accord pour regarder les radars et si tu es d'accord pour dire que l'insécurité routière est multifactorielle et donc il faut lui apporter des solutions radicales différentes, il y a plein de solutions possibles. Mais on va pas loin. On va peut-être être d'accord.
Du coup, on va dire à demain.
Moi, depuis qu'on parle de sujet, je n'ai jamais varié d'un iota.
C'est vrai, ça.
Non, Laure, fais l'arbitre, puisque
mais
c'est ton boulot.
Mais je sais,
j'ai expliqué quand même que les radars, ça servait à rien. Arrête.
Je te le dis.
Ah, voilà. C'est moi qui suis constant sur ce sujet depuis le début.
T'as pas dit que les radars, ça servait à rien?
Non,
c'est les radars mobiles.
Ah oui, ça, c'est un scandale.
Nuance, c'est pas la même chose. Lisa Marie, on peut voter sur les réseaux.
C'est là quand même.
Merci, pour tenir aussi.
La comptabilité des propos véritablement venus dans cette
émission. C'est incroyable.
On nous fait déjà tellement dire des choses qu'on n'a pas dit. Non, mais c'est pas vrai, ça.
Je vous rappelle notre question. Les radars sont-ils encore la solution? On attend vos messages, vos témoignages et votre avis sur cette question sur Twitter, sur Facebook et sur l'application RMC.
RMC, Neumann Le Chypre.
32-16. Elle est avec Benjamin qui nous appelle depuis le Maine-et-Loire, qui est technicien informatique. Bonjour Benjamin.
Bonjour à tous.
Toi, tu es plutôt côté Laurent Neumann. Tu veux défendre les radars?
Pas vraiment. Faudrait réduire les radars, mais à côté, augmenter la part d'humain sur le bord des routes.
Le vrai gendarme.
Ah oui, le vrai gendarme.
Ah oui.
Là, pour le coup,
parce que le radar, lui, il s'est pas engueulé. Le gendarme, il sera engueulé le conducteur qui a fait une bêtise.
Tu crois que c'est plus efficace d'avoir un contact direct? Vraiment, vous avez roulé à telle vitesse, c'était dangereux.
Après la vitesse, je pense pas que il y a certes la vitesse, mais je pense qu'il y a d'autres comportements aussi qui seraient plus à verbaliser, notamment le téléphone au volant, par exemple.
Ouais.
Et ça, le radar autoroutier, c'est pas faire.
Oui, il sait pas voir les comportements, et c'est bien tout ce que dit la Cour des comptes, qu'il faut maintenant se concentrer sur les comportements à risque plus que sur la vitesse elle-même.
Oui, les comportements à risque. L'État doit faire son boulot aussi en matière de sécurisation des routes, des infrastructures.
Mais,
ouais,
mais, qu'est-ce qu'attend par exemple l'État pour imposer aux constructeurs un système d'éthylotest pour empêcher la voiture de démarrer ? C'est quand même pas compliqué. On sait le faire.
Oui, Benjamin.
Les éthylotests en démarrage, ça existe déjà dans les autocars. Pourquoi pas dans les voitures ou dans les camions ?
Voilà, exactement. Exactement. Mais si tu veux, c'est pas plein de solutions à l'exclusion des radars.
Non.
Les radars sont indispensables.
L'éthylotest, modèle, tu dirais oui pour ne pas démarrer la voiture ?
Alors oui, mais d'après ce que j'ai pu voir sur des tests qui avaient été faits, il faudrait trouver un moyen que celui qui souffle soit bien celui qui conduise.
Ah oui.
Bonne remarque.
Non,
c'est vrai.
Avec une empreinte ou je sais pas.
Alors je sais pas. J'ai peut-être un système de reconnaissance. Ça après, je pense que ce sera possible. Ce sera possible.
Faire payer ton souffle.
De toute façon.
10 euros, je souffle dans ton. Non, je lance un business. Pardon. Non, mais je sais pas.
Pour 10 euros, pourquoi pas. Si ça permet.
Je souffle.
Effectivement. Bon, mais non, mais je pense qu'il y a d'autres. Moi, je crois profondément que l'avenir. Je vais vous le dire. Enfin bon, sans aller vers la voiture totalement autonome. Moi, je pense qu'on a des voitures. Moi, mon rêve, hein, d'ailleurs, mon rêve de conducteur, c'est d'avoir une voiture qui s'adapte automatiquement à la vitesse limitée. Là où
tu veux plus conduire, toi.
C'est ça. Moi, je
alors que Laurent lui veut toujours conduire.
C'est le paradoxe, c'est que Laurent, il aime conduire.
Ah, j'adore conduire.
Moi, ça ne me plaît pas. Mais je pense qu'effectivement, il y a des tas de choses à faire. Alors, je suis d'accord sur l'idée des gendarmes. On n'en voit pas assez au bord des routes. Mais à l'étranger, il y en a pas plus non plus au bord des routes qu'en France, parce que ça coûte très cher de mobiliser autant de forces de l'ordre. Donc, vous avez raison, mais je ne crois pas que ce soit une solution raisonnable.
Chez nous, on reconnaît que c'est un sport national quand même de chercher à contourner les règles, de façon générale, pas seulement sur la route. Ouais. Et reconnaît, si tu fais un peu de route, que tu croises sur la route des automobilistes dont le comportement est absolument indéfendable. Bien voilà. Sûr.
Merci Benjamin d'être venu débattre avec nous. On est avec Benoît qui nous appelle de Saint-Laurent de Périgat.
Benoît.
Toi, tu es chauffeur poids lourd. Salut,
ah bah
Benoît,
dès qu'il y a un sujet de sécurité routière, et c'est notre expert maintenant.
Bah presque.
Ouais.
Toi, non, tu voudrais des vraies formations à la conduite.
Oui, parce que moi, j'ai pas passé le permis normalement. J'ai un BEP CSTR, conduite et service dans le transport routier. Donc ça veut dire qu'en sortant de troisième, j'ai directement fait mon BEP.
Ah oui.
Donc j'ai passé mon permis voiture. J'avais même pas 16 ans, qui était valide après à 18 ans, et j'ai passé mes poids lourds. Et du coup, sur 2 ans, t'as une vraie formation où tu vois de la sécurité routière, tu vois les accidents. La première semaine, on a eu 1 heure de cours sur l'accidentologie déjà. Donc t'as 15 ans, tu te bouffes 1 heure de vidéos d'accidents de la route.
Ouais.
Donc je peux te dire qu'après, quand tu passes derrière un volant, t'as pas le même comportement. Donc déjà, il y a ça. Ma femme, elle a passé le permis longtemps après moi. Et du coup, on a fait une conduite supervisée. Donc c'est la conduite accompagnée pour les adultes. Et quand je vois ce qu'ils lui ont appris à l'auto-école comparé à moi, ce que j'ai appris dans mon BEP, mais c'est du tout au tout, quoi. En France, on apprend à passer un permis de conduire, on n'apprend pas à conduire, quoi.
Et c'est vrai qu'il y a énormément, là, au permis de questions techniques, hein, ne serait-ce que de comment fonctionne le véhicule. Mais bon, il y a quand même des heures de cours, mais on passe pas encore 1 heure de vidéo.
Mais je me souviens, il y a quelques mois, dans un débat autour des radars, c'était sur les radars embarqués, si ma mémoire est bonne, j'avais fait la suggestion, mais même Emmanuel a dit, mais c'est une très bonne idée, je suis pour, plutôt que d'emmener les gens dans des stages de récupération de points où ils n'apprennent strictement rien, emmenez-les dans un hôpital où il y a des grands blessés de la route pour voir dans quel état les gens sont brisés. Emmenez-les voir dans le couloir les familles qui pleurent toutes les larmes de leur corps parce que tout à coup, il y a un dingue qui a pas tenu la vitesse autorisée et qui a fauché 2 vies, 3 vies, 4 vies sur la route. Allez voir
ça. Ce serait bien pour après le premier stage. Parce qu'en fait, il y a des gens qui font des stages...
Non, c'est trop tard.
Ah, ouais.
C'est beaucoup trop tard, faut le faire.
Oui, on peut dire que c'est trop tard.
Toi, tu penses que c'est avec le permis, ouais.
C'est même avant le permis, moi, je dirais. Parce que moi, du coup, les vidéos, on les a bouffées à 15 ans.
Ouais.
Pour de l'après-midi, tu sors de manger, tu te tapes ça derrière. Bah franchement, faut avoir l'estomac bien accroché. Et derrière, ça, parce qu'une fois que t'as fait l'infraction, une fois que tu t'es fait choper à 180, là t'as eu le radar au bout. Avec moins de chance, t'aurais eu une voiture avec une famille dedans au bout. Tu vois ce que je veux dire, c'est trop tard. Faut le faire avant. Quand j'étais gamin en primaire, on a passé le code vélo, enfin le permis vélo même.
Ouais,
ah oui, j'avais passé ça moi aussi.
Donc déjà t'as Parce qu'un gamin, il attend pas d'avoir 18 ans et le permis pour faire du vélo. Enfin, en ville, je sais pas, mais nous, en campagne, les gamins, nous, quand on était petits, on allait à la piscine en vélo, on allait au foot en vélo. C'était notre moyen de locomotion quand on était gamin. Donc, je sais,
ouais, ouais.
Je sais pas maintenant envie de commencer, mais le gamin, déjà, il a une connaissance du code de la route. Forcément, s'il a vu un truc à l'école, quand papa ou maman va prendre le téléphone ou quoi, hey, « Eh papa, maman, le gendarme, il a dit à l'école que machin. » Hop.
Ah, c'est comme aujourd'hui, avec le recyclage, si tu mets pas dans la bonne poubelle, c'est les enfants qui te...
Non, mais je crois qu'on dit pas assez dispute. Aux gens qu'une voiture, c'est une arme par destination. Donc tu peux pas faire n'importe quoi, tout simplement. Et si tu te mets pas, seulement toi en danger, tu mets les autres en danger.
Tu vois, on parle de prévention, etc. Regarde par exemple les efforts d'imagination qui sont faits par les pubs dans tous les pays du monde. Je sais pas si t'as vu les pubs françaises pour la prévention routière, c'est effectivement des images dramatiques. Etc. Est-ce que tu as vu cette pub belge du gars qui fait fortune en pariant sur les accidents des autres ça. Mais
il faut comprendre le second degré.
Alors, oui, c'est vrai. Le second degré, c'est une spécialité belge. Je suis pas sûr que ce soit une spécialité française. Mais c'est vrai qu'il y a des façons de marquer les. Et là encore, ça fait partie de la prévention, de l'éducation.
On va en parler dans un instant avec notre invité Laurent Carny, directeur de recherche à l'université Gustave Eiffel, qui était l'ancien IFSTAR, c'est dur à dire, Institut français des sciences et technologies des transports. Un grand merci à Benjamin et Benoît d'être venus débattre avec nous. On vous attend au 32-16 sur RMC. À tout de suite.
RMC, midi 14h.
Neumann Le Chypre.
RMC, midi 14h.
Neumann Le Chypre.
Neumann Le Chypre, on est ensemble jusqu'à 14h. On parle des radars et sécurité routière. Est-ce que les radars sont encore la solution? Il semble qu'il y ait un palier depuis 2013 dans la baisse des morts en France. On n'arrive pas à faire baisser le nombre des morts plus que ce qu'il n'est aujourd'hui. Pour Laurent Neumann, la peur du gendarme reste le meilleur des leviers. Pour Neumann Le Chypre, il faut arrêter la logique de la répression, du tout répressif et de s'axer sur la vitesse uniquement. Lisa Marie, quelle est la première tendance?
Pour le moment, 75% à répondre non. Comme Emmanuel Le Chypre, pour vous, les radars ne sont plus la solution.
Bah voyons, on va arrêter les radars, on va arrêter les limitations de vitesse et vous allez voir, mécaniquement, la sécurité routière, ça allait beaucoup mieux.
Alors, on n'a pas dit qu'on allait arrêter les radars. C'est peut-être arrêter de le développer, mais pas enlever ceux qui sont déjà en place. On est avec Laurent Carnis. Bonjour, directeur de recherche à l'université Gustave Eiffel. Quand vous avez vu le rapport de la Cour des comptes, ça vous a surpris ou finalement, vous dites, enfin, on va pouvoir multiplier les facteurs pour faire plus de sécurité routière?
Tout d'abord, bonjour à tous. Non, je n'ai pas été surpris des énoncés du rapport de la Cour. Moi, j'en suis satisfait à plusieurs points, hein, parce que effectivement, il y a une lecture particulière qui est faite de ce rapport, qui serait de dire les radars, effectivement, comme l'intitulé de votre sujet, ne seraient plus la solution. Or, la Cour, dans son rapport, rappelle que ça a été une politique efficace et à coût maîtrisé. Le deuxième point, la Cour mentionne également les effets attendus du 80 km/h qui ont été très contestés, très débattus, et elle considère que ça a été une mesure également efficace. Et le troisième point, mentionné par la Cour, c'est le fait que la dégradation des radars pendant la période des Gilets jaunes a conduit à une dégradation des performances de sécurité routière. Donc, à votre réponse, oui, les radars restent un outil fort utile et fort efficace pour réduire l'accidentalité routière, effectivement.
Mais efficace, mais aujourd'hui, il faut passer à autre chose?
Je pense que l'image qui consiste à dire qu'on n'a fait qu'une politique du tout radar est une vision assez erronée des choses. L'État et les collectivités investissent dans l'entretien du réseau routier. Alors, peut-être pas suffisamment, mais il y a quand même des efforts considérables qui sont entrepris, hein, c'est des milliards d'euros. Il y a des mesures éducatives, des campagnes de communication, de formation. Donc il y a un grand nombre de
mesures. Alors sur quoi il faut appuyer aujourd'hui?
Comment ?
Sur quoi il faut appuyer aujourd'hui ? Sur quel pont on n'appuie pas encore assez ?
Eh bien, la Cour évoque aussi des pistes d'action très, très intéressantes. La première, c'est ce qu'elle appelle le système sûr. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut qu'on développe peut-être plus une approche systémique, c'est-à-dire qu'ils prennent en considération l'interaction des différents facteurs de risque, hein, les véhicules. Hein, il va y avoir l'arrivée du véhicule autonome et la meilleure prise en considération des nouvelles formes de mobilité. Hein, je pense que vos auditeurs donc on change du développement des trottinettes, des choses de ce type. Bien évidemment, l'entretien des infrastructures routières, mais pas simplement que l'entretien. Hein. Il s'agit de réfléchir à leur conception, une route qu'on appelle qui pardonne hein, lorsque le conducteur fait des erreurs, une structure qui prenne en considération les usagers vulnérables, je pense notamment en milieu urbain. Donc c'est vraiment une politique d'aménagement hein, à laquelle on s'inscrit. Bien évidemment, toujours des efforts en matière d'orientation vers les usagers, mais également des actions qui doivent être menées sur la prise en charge des victimes, hein, c'est tout ce qu'on appelle le post-crash, le post-accident, mais également un élément qui est avancé par la Cour, et je comprends pas qu'on ne mette pas suffisamment l'action et l'accent dessus, c'est repenser le système de gouvernance de sécurité routière qui consiste à mieux intégrer les parties prenantes, à la conception de la politique de sécurité routière, mais également à l'attribution finalement d'engagement. Hein,
alors ça veut dire quoi? Il faut intégrer qui? Il faut intégrer qui dans la politique de sécurité routière, dans la gouvernance?
Peut-être mieux intégrer les collectivités territoriales hein, qui doivent s'engager peut-être sur des objectifs, prendre en considération bien sûr les usagers, mais aussi les associations de victimes qui ont des positions et qui ont également des idées. Peut-être mieux intégrer aussi les enseignements de la recherche.
Attendez, je me permets de vous interrompre un instant. Il y a eu un débat absolument interminable autour des 80 km/h, notamment sur les routes sans séparateur central. On nous explique qu'en Suède, plutôt que de faire baisser la vitesse à 80 km/h, on a tout simplement eu l'idée de mettre des séparateurs centraux. Mais disons la vérité, les régions, les collectivités locales n'ont pas voulu dépenser cet argent. Et lorsque l'État a dit, très bien, vous voulez pas dépenser cet argent, on va mettre la vitesse à 80 km/h, tout le monde est monté au créneau en disant, non, c'est attentatoire à nos libertés, 80 km/h. Mais il fallait que les collectivités locales dépensent l'argent pour faire les séparateurs centraux sur ces routes dangereuses. La Suède l'a fait, la France ne le fait pas, et du coup, quand on baisse la vitesse, tout le monde monte au créneau. Mais il faut choisir dans la vie. Ou on dépense de l'argent pour protéger des vies, ou alors on agit avec la coercition, on baisse la vitesse. Mais il faut choisir.
Vous pointez ici, Laurent, un élément essentiel, c'est la question du coût. Effectivement, il y a des arbitrages qui sont réalisés. Effectivement, une solution pourrait être de considérer que si on décide de relever les limitations de vitesse, eh bien, il faut faire des investissements en termes d'infrastructures de manière à ce que le risque supplémentaire soit pris en considération. Le deuxième point que vous soulevez, c'est celui toujours de l'exemple par l'international. Vous soulevez la Suède, mais il faut aussi repositionner le problème de la Suède. La Suède, c'est un pays assez grand, bien évidemment, mais dont la population est extrêmement concentrée dans des métropoles urbaines. Ça veut dire que les enjeux de sécurité routière ne se posent pas de la même manière lorsqu'on a 1 million de kilomètres de voies, comme c'est le cas en France. Et le deuxième point que vous avez soulevé par rapport aux séparateurs, il ne faut pas oublier que ce sont finalement des lignes, finalement des câbles tendus qui permettent de refaire revenir finalement les véhicules dans le bon chemin pour éviter les collisions frontales. Mais là aussi, ça concerne un nombre de kilomètres finalement assez réduit. Et lorsqu'il s'agit de sécuriser les usagers vulnérables en milieu urbain, par exemple, la Suède n'hésite pas, là aussi, à jouer sur les limitations de vitesse. Donc, il faut toujours être, je dirais, mesure gardée aussi.
Oui, mais parce que je crois, pardonnez-moi, qu'il y a un élément qu'on ne prend pas assez souvent en compte. On dépense chaque année, je l'ai dit tout à l'heure, environ 3,5 milliards d'euros pour la sécurité routière. Mais l'insécurité routière nous coûte 44 milliards. Donc, ces 3,5 milliards qu'on dépense, c'est une forme d'investissement. C'est même pas une dépense, c'est un investissement. Et donc, il faut l'avoir en tête. Encore une fois, le coût, ne serait-ce que pour la sécurité sociale, des accidents de la route, mais c'est colossal. On parle tout le temps des morts. On juge la qualité de la sécurité routière au nombre de morts. C'est vrai que depuis 25 ans, pour des tas de raisons, d'ailleurs, les radars en font partie, le nombre de morts a considérablement baissé. Mais j'ai sous les yeux le nombre de blessés. 21 000 blessés hospitalisés, 48 000 blessés légers. Bah, vous faites l'addition de tout ça et vous imaginez ce que ça coûte rien qu'à la Sécu. Je parle même pas de la réparation du matériel endommagé. Je parle même pas des coûts en matière d'assurance, juste pour la sécurité sociale. Mais ces 3 milliards d'euros dépensés, c'est rien à côté de ce que ça coûte. Donc les radars, la question des radars, moi je l'ai lu, enfin j'ai lu le résumé du rapport. Opposer les radars à toute une série de mesures, c'est débile, c'est débile. Les radars, c'est un des aspects de la sécurité routière. Mais laisser penser aux gens qu'on pourrait se passer des radars, qu'on pourrait se passer de la peur du gendarme, mais c'est juste mentir aux gens. C'est juste mentir aux gens. Et les gens qui sont très attachés à l'utilisation des deniers publics, ou qui en ont marre d'ailleurs, qui ont mettent des radars et qu'on leur pique leur argent. Mais encore une fois, c'est 700 millions d'euros les amendes pour les radars. 700 millions d'euros, c'est que dalle, c'est rien.
Oui, Laurent Carnis.
Vous avez tout à fait raison d'insister, je vais aller dans votre sens. Le programme radar, je dirais que c'est une très bonne affaire, une très bonne mesure de politique publique. Pourquoi ? Parce que effectivement, vous l'avez évoqué, c'est à peu près 200 à 250 millions annuels, qu'on peut voir effectivement non pas comme une dépense, mais comme un investissement. Vous avez tout à fait raison. Mais le retour, c'est même pas le retour en termes d'amende, c'est le retour par rapport au nombre de vies sauvées. Avec des collègues, avec un collègue, on a mené une recherche, on estime au minimum entre 15 et 18 000 vies sauvées, plus de 100 000 blessés évités cumulés sur les 10 premières années.
Ouais, on a l'impression, Laurent Carnis,
c'est considérable. On est tout à fait d'accord sur ce
point. Oui, sauf que là, on a l'impression que ce que vous proposez, c'est assez minime finalement. Vous avez l'air de vous satisfaire du niveau d'investissement. Vous dites que on dépense pour rénover nos routes. Or, nos routes n'ont jamais été aussi mal entretenues. C'est-à-dire, quand vous regardez la qualité des infrastructures routières en France, dans tous les classements internationaux, elles s'effondrent. Sur la prévention, on fait rien. Encore une fois, toutes les bonnes idées à l'étranger, il y en a des dizaines, il y en a plein qu'on ne met pas en place. Alors, vous voulez qu'on discute, etc. Moi, je veux bien, mais franchement. Ou alors, est-ce qu'on considère qu'il y a un nombre incompressible? Est-ce qu'on peut arriver un jour à zéro mort, par exemple? Non. Est-ce qu'il y a un nombre incompressible de morts sur la route?
Le risque routier, il ne peut pas être nul, mais c'est vrai que c'est la politique du vision zéro. Vision zéro, c'est l'optique de sécuriser, d'ultra-sécuriser nos voies. Parce que, comme l'a dit votre collègue, derrière, ce sont des vies, ce ne sont pas simplement que des statistiques. Et là aussi, je suis d'accord avec votre collègue, on focalise sur le tuer. Alors, effectivement, les progrès de cette politique publique font qu'on est à moins de 3000 tués aujourd'hui. On a une situation un petit peu particulière avec la pandémie, bien évidemment. C'est effectivement un nombre considérable de victimes hospitalisées, d'une part, mais aussi de victimes qui auront des séquelles. Donc, il faut aussi replacer les choses dans leur contexte. Ensuite, quand vous dites qu'on ne fait rien, non, je ne suis pas d'accord. On ne peut pas dire et affirmer de manière aussi gratuite que l'on ne fait rien. Il y a des progrès, il y a des choses qui sont faites. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit faire que du radar. Ça ne signifie pas qu'il n'y a pas de nouvelles choses qui doivent être faites, notamment, je pense, en matière d'alcoolémie, en matière d'agencement des villes et de protection des usagers vulnérables, notamment avec, par exemple, les zones 30 ou des zones d'échange, des choses de ce type. Ce sont sans doute des choses à améliorer en matière de formation des conducteurs, etc., de la gestion de risques spécifiques comme les risques liés aux jeunes usagers ou aux personnes plus âgées, etc. Simplement aller voir sur le site du Comité national de la sécurité routière, il y a des propositions.
Il reste beaucoup de choses à faire qui n'ont pas été mises en place encore en France. Merci beaucoup Laurent Carnis d'avoir été avec nous, directeur de recherche à l'université Gustave Eiffel. On vous attend au 32-16 pour parler de routes, de sécurité routière. Est-ce que vous avez l'impression que les radars sont encore la solution ou est-ce qu'il faut explorer d'autres pistes? Peut-être que vous avez même des idées. On vous attend sur RMC, à tout de suite.
RMC midi 14h.
Neumann Le Chypre.
Vous écoutez
RMC.
RMC midi 14h.
Neumann Le Chypre.
Neumann Le Chypre, le retour. On est ensemble jusqu'à 14h sur RMC, sur RMC Story. On parle sécurité routière. Les radars sont-ils encore la solution face à une baisse de la mortalité sur les routes qui stagne? Pour Laurent Neumann, c'est oui, la peur du gendarme reste le meilleur des leviers. Pour Emmanuel Le Chypre, non. On est au bout de la logique de répression. On va aller au 32-16.
RMC, Neumann Le Chypre.
32-16.
Et on est avec David, qui est commercial, qui nous appelle depuis le Val d'Oise. Bonjour David.
Bonjour.
Toi, tu as l'impression qu'il n'y a pas de formule magique, ce qui est sûr.
Après, c'est compliqué d'avoir un avis tranché sur la question, mais si... J'avais quelque chose à dire, mais juste avant de dire cette chose-là, il y a deux choses que je voudrais dire. C'est que aujourd'hui, quand on allume la télé, on regarde une émission télévisuelle, enfin un magazine télévisuel ou radio, on a des polémiques sur dire Ouais, les gens roulent vite, on a des records, 160, 180, alors on équipe la gendarmerie, on achète des Subaru, des Mégane RS et tout ce qu'on veut. Mais moi, j'ai juste une question à poser. Aujourd'hui, avant de venir à cette question, j'ai oublié de signaler quelque chose, c'est que la voiture, à la base, c'est un moyen de locomotion.
Ouais,
c'est-à-dire
ouais.
qu'on va d'un point A à un point B, d'accord ? Moi, j'ai juste une question à poser. Pourquoi on fait des voitures qui roulent à 200 ou 220 km/h, enfin, ou X, le chiffre, alors que la vitesse maximum en France, elle est de 130?
Tu as vu qu'il y a déjà des constructeurs qui ont annoncé qu'ils ne feraient plus de voitures qui roulent jusqu'à 250 et qu'ils allaient les brider, hein?
Non, ça, j'ai pas.
Ça existe déjà, c'est le cas de Volvo de mémoire, et je me demande si c'est Renault ou c'est Peugeot qui a annoncé ça. De tête, tu sais plus, mais on a fait une émission là-dessus.
La réalité, c'est que la voiture, c'est bien plus que ça. La voiture, c'est pas seulement un moyen de transport, mais oui, la voiture,
c'est une expérience.
C'est le symbole de la liberté pour énormément de gens.
C'est la première fois que t'as ton permis.
Bah non, mais c'est ça, c'est beaucoup plus que ça. Si ça n'était qu'un moyen de transport totalement dépassionné, oui, mais c'est beaucoup plus que ça, malheureusement.
Laurent, aujourd'hui, oui, pardon. Excuse-moi.
Non, mais Laurent va te dire oui, toi, qui adore la voiture.
Ah bah oui, oui, évidemment que c'est plus que ça.
Mais moi aussi aujourd'hui j'aime bien la voiture, mais aujourd'hui ce que je veux dire c'est que on a envie de se faire plaisir, on a une belle voiture, ok, ça je peux l'entendre, je peux le comprendre. Maintenant on ouvre des polémiques et on entend des choses, c'est qu'aujourd'hui on fait rouler des voitures à des chiffres X, et comme vous le disiez tout à l'heure dans votre émission, derrière tout ça, dès qu'on pousse la porte de l'hôpital, il y a des familles brisées. Donc qu'est-ce qu'il faut? C'est le plaisir. Si on a vraiment envie de se faire plaisir, enfin, il y a des circuits d'automobile, il y a des choses en place aujourd'hui qu'on peut faire pour vivre de cette passion-là.
Il ne faut pas confondre la route avec la course automobile, et si on veut faire de la vitesse, on peut aller sur un circuit. Merci beaucoup, David, d'avoir été avec nous dans Neumann le Chypre. On est avec Pierre Chasseret. On ne peut pas finir cette émission sans Pierre Chasseret, délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes. Pierre, est-ce que vous travaillez pour la Cour des comptes en sous-main?
Écoutez, franchement, ça se posait des questions, mais non. Par contre, on a été auditionnés. C'est vrai qu'on est arrivé avec un vrai boulot de fond, et que pour une fois, on ne nous avait pas pris pour des charlots. C'est-à-dire que quand j'entends le témoignage de David juste avant, eh bien, je me dis, David, il est le reflet un petit peu de cette sécurité routière qui ne marche pas en France. Pourquoi? Parce que quand il a parlé sécurité, il a parlé quoi? Vitesse. Uniquement vitesse. Et en fait, on oublie que derrière ces débats, qu'il faut dépassionner, parce qu'évidemment, il a totalement raison. Les routes, c'est pas un circuit de Grand Prix. On n'est pas là pour battre des records de vitesse. Bien sûr, il a tout à fait raison. Mais derrière ça, eh bien, quand on ne parle que de vitesse, on ne parle pas des autres causes d'accident. Et ça devient catastrophique.
Mais c'est pas vrai, Pierre. Mais c'est pas vrai. On fait des campagnes sans arrêt pour dire le téléphone au volant, l'alcool au volant, la drogue au volant.
Attends, c'est pas des campagnes qu'il faut faire, Laurent. Au bout d'un moment, il faut agir. Regardez, aujourd'hui, qui, à part moi, chez 40 millions d'automobilistes, est capable de vous dire que 16% des cas d'accident mortel aujourd'hui sur les routes, ce sont sur des refus de priorité. 16% des cas d'accidents mortels sur les routes, refus de priorité. Et ça, quand même, c'est pas une paille. 16% des accidents mortels. Est-ce qu'on en parle? Jamais. Donc aujourd'hui,
oui, mais ce qui est gênant, Pierre, ouais. ce qui me gêne, moi, dans tous ces débats, et j'ai presque réussi à trouver un point d'accord avec Emmanuel, donc j'essaye de te convaincre aussi. Ne laissons pas croire que la vitesse n'a aucune importance. C'est pas est-ce que la vitesse est grave ou pas grave. La vitesse, c'est grave. C'est un facteur aggravant.
Le problème, c'est que c'est donc, tellement grave qu'on ne s'est battu que contre ça.
Mais c'est pas vrai.
Mais bien sûr que si.
Disons qu'il y a plusieurs facteurs, mais ne faisons pas croire que la vitesse, ça ne compte pas. Que donc par ricochet, les radars, il vaudrait mieux s'en séparer, et que la peur du gendarme n'est pas un facteur utile à la sécurité routière. Laurent, bien sûr que c'est utile.
Laurent, attention, ton jour de gloire est arrivé. Laurent, tu as raison.
Ah, merci.
Tu as raison,
voilà.
Sur un point, c'est qu'évidemment, bien sûr, les vitesses sont totalement délirantes, excessives, et bien tout ça, il faut y mettre fin, et c'est pas possible, parce que c'est pas sécuritaire, et ça met en danger la vie des autres. Et ça, c'est anormal. En revanche, Laurent, attention, le système français, c'est quoi? C'est le seul pays européen. On est les seuls, c'est nous les champions, on est les meilleurs, comme d'habitude. C'est le seul pays européen qui punit de retrait de points et d'amende les petits excès de vitesse involontaires. 1 ou 2 km/h au-dessus, eh ben, bang, on se prend une amende et un retrait de points. Ça n'a aucun sens en termes de sécurité, aucun. Et pendant ce temps-là, ça met tout le monde dans le même panier. Celui qui a pas fait gaffe et qui se retrouve un petit peu au-dessus en bas d'une descente. Et puis celui qui roule n'importe comment en faisant fi de toutes les règles. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, le modèle de sécurité routière qu'on doit inventer, c'est un modèle auquel tout le monde souscrit. pas un modèle où il y a plus de terrier. Plus aujourd'hui, quand on parle sécurité routière, on se dit oh, ça y est, encore un rabat-joie qui va nous raconter n'importe quoi pour justifier des radars. C'est devenu ça. Et du coup, eh ben franchement, il y a plus l'adhésion de la population.
Mais Pierre, il y a quelque chose un chiffre que tu ne cites jamais, et j'espère que tu vas confirmer ce que je dis. 80% des conducteurs ont l'intégralité de leurs points.
Donc
ça veut dire que la grande, la majorité écrasante des conducteurs se comportent bien. Et donc notre problème, il est avec 10, 15, 20% des automobilistes, oui, pas plus.
Mais oui, Laurent, mais
comme toujours, attention. D'ailleurs.
Non, c'est pas vrai. Ça c'est une erreur. Attends, Pierre, je dois relever cette énormité statistique.
Oui, mais j'arrive.
Ah, bah voilà. C'est-à-dire que parmi les 80% de gens qui ont encore tous leurs points, il y en a combien qui ont des accidents mortels? Alors qu'ils ont tous leurs points. Tous ceux qui meurent à des carrefours de refus de priorité, là.
Mais de la fraude qu'ils ont pas, qui respectent pas.
Mais ils ont sans doute encore tous leurs points.
Mais Emmanuel, c'est encore pire que ça. Cette réalité statistique, en fait, voilà, on sous-entend que moi, je travaille à la Cour des comptes. Parce qu'effectivement, ces gens qui ont été brillants ont fait un rapport brillant. Mais le problème, c'est que Laurent, lui, travaille à la sécurité routière. Parce qu'il nous a fait un exercice de mauvaise foi phénoménal. Il a oublié, il a mis dans le même panier, il dit 80% des gens ont tous leurs points. Laurent, ça veut pas dire qu'un jour, on s'est pas fait prendre au moins une fois au radar. Ça veut dire que ces gens-là qui ne méritent pas qu'on leur retire des points, une amende, qui n'ont pas besoin de payer un impôt sur le droit de rouler, ces gens qui se font matraquer à coups de taxes au quotidien pour un ou deux kilomètres.
Non mais Pierre,
ont 12 points.
Pierre, je vais confirmer à 100% ce que tu viens de dire. J'ai mes 12 points. Il m'est arrivé de me faire enlever des points puis de les récupérer, mais j'ai pas pleurniché sur l'existence des radars ou des limitations de vitesse.
Ah, monsieur parfait n'est pas si parfait. Finalement, il a des défauts. Merci beaucoup, Pierre Chasseret, d'avoir été avec nous.
Enfin,
délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes. On va aller au 32-16, voir Rémi qui nous attend. Bonjour, Rémi.
Oui, bonjour.
Toi, tu nous appelles de Beaumont, du Ventoux, c'est dans le Vaucluse. Tu roules au moins.
Le meilleur pays du monde.
Écoute.
C'est beau, hein.
Tu es 2 heures par jour sur les routes et tu as l'impression que les radars sont inefficaces.
Oui, inefficaces parce que, ça fait freiner 100 mètres avant, 100 mètres après, mais pas plus. Maintenant, on a les outils pour le
c'est
prévoir.
C'est ce que tu fais, toi?
Non, du tout, parce que sur la route, j'ai passé, moi j'ai 37 ans, j'ai passé l'époque où j'étais libre sur la route, donc maintenant, j'ai plus besoin de surveiller où sont les radars ou pas. Mais je le vois dans la circulation, les gens freinent avant parce qu'ils sont avertis, et dès qu'ils ont passé le radar, ils repartent. Non.
Donc tu es favorable au radar embarqué?
Non plus, ah parce que le radar embarqué, ça se fait, pour moi, c'est vraiment de la chasse aux tout petits détails, comme le disait l'auditeur d'avant. Ou le monsieur qui parle avant, c'est qu'on
Pierre va sanctionner
les 2-3 km/h que les gens dépassent sans faire exprès.
Ah moi, donc tu es contre les radars. Tu es contre les radars en général.
Pas en général, mais moi je le vois, il y en a la moitié qui sont placés à des endroits pas dangereux, mais des endroits très fréquentés où c'est facile de dépasser la vitesse. C'est ça. Et
je peux te dire un truc, Rémi. J'ai regardé ce matin, le nombre d'accidents a baissé de 66% autour des radars. Quand il y a un radar, et par rapport à l'époque où il n'y avait pas de radar à ce même emplacement, les accidents ont baissé de 66%.
Mais tu vois bien que ces radars-là, personne
principe,
ne dit rien.
Ils ont été mis à des
endroits l'acceptabilité
où il y
quand
des dangers.
Se sert de pompe à
c'est plutôt pas mal.
Donc c'est le contraire de ce que dit Rémi. Rémi dit il y a beaucoup de radars à des endroits où c'est pas dangereux.
Non, il y en a quelques-uns. Il suffit des années dans le sud, je vous ferai visiter. Il y a plein d'endroits où ils sont.
La France des radars.
Non, mais c'est ça. Et après, pour rebondir à ce qu'il disait l'auditeur d'avant, moi j'ai roulé très vite plus jeune. Et les points que j'ai perdus, ça a été sur des tout petits excès de vitesse, pardon.
Ouais, c'est
ça
n'a
jamais été sur les gros.
Bah, moi, c'est ça, c'est vrai.
Changé de comportement. Merci beaucoup, Rémi, d'avoir été avec nous. Dans Neumann, le chip, Lisa Marie, quel est le résultat des votes?
Vous êtes finalement 80% à répondre non, les radars ne sont plus la solution. Vous êtes d'accord avec Emmanuel Le Chip?
Oh, la pilée que t'as pris aujourd'hui, toi. Entre l'uniforme à l'école et les radars.
Là, c'est vraiment à vaincre sans gloire. Hein.
Allez, on va aller voir nos notaires.
RMC, midi 15h, Neumann Le Chypre.
Vous avez une question, les notaires vous répondent.
Les notaires vous répondent le vendredi à 13h50. Bonjour Boris Vienne, merci d'être avec nous dans Neumann Le Chypre. On a une question pour vous de Clotilde. Clotilde, elle nous dit, mon conjoint et moi sommes pacsés depuis 4 ans, on veut se marier, est-ce qu'il faut qu'on passe obligatoirement chez le notaire?
Et bonjour à tous les trois.
Bonjour.
C'est pas obligatoire de passer devant le notaire pour se marier. Par contre, Ce qui est intéressant, c'est de passer devant le notaire pour savoir à quelle sauce on va être mangé juridiquement une fois qu'on sera marié. Voilà. Et le seul qui soit capable même de vous donner la totalité de l'alpha et de l'oméga du truc, c'est quand même le notaire. Et je voudrais juste poser une question, c'est que on est d'accord que le Cotil dit mon conjoint et moi. C'est-à-dire que déjà, en disant ça, elle se considère comme mariée parce qu'un conjoint, c'est forcément l'époux. Voilà.
On dit pas conjoint quand on n'est pas paxé. Ah oui, juridiquement.
Parce que on est partenaire.
On peut le dire comme ça quand même. Hein, on n'est pas passible de poursuite.
On le dit systématiquement même, je vous dirais.
Emmanuel.
Alors, maître, qu'est-ce qu'il faut savoir impérativement quand on veut se marier avant et quand on est paxé? Quelles sont les questions qu'on vous pose le plus souvent? Et peut-être, quelle est la chose la plus importante auquel on ne penserait pas forcément si on ne venait pas vous voir?
Ce qu'on va retrouver très souvent, c'est que quand on est paxé sous un régime de séparation. Et si on va se marier sans passer par le notaire, on va se retrouver marié sous un régime de communauté, qui est le régime légal qui s'applique à défaut de contrat de mariage. C'est-à-dire que tout ce qu'on avait échafaudé, construit au niveau du patrimoine avant le mariage, va avoir des règles du jeu qui vont être complètement transformées à partir du jour du mariage. Donc c'est pour ça que c'est important d'aller voir un notaire pour comprendre quelles vont être les conséquences, juridiquement parlant, de notre mariage.
Eh oui, parce que l'intérêt, quand on passe, ce qui est obligatoire, en revanche, c'est de passer devant un notaire si on veut faire un contrat de mariage, c'est bien ça?
C'est tout à fait ça. À partir du moment où on veut s'écarter du régime légal qui est celui de la communauté d'achat, eh bien à ce moment-là, on est obligé d'aller devant le notaire, qui est la personne, l'officier public, qui permet de faire votre
contrat
de mariage.
Et c'est là, pardonnez-moi maître, où le notaire dit au futur marié, attention jeunes gens, tout va bien puisque vous allez vous marier a priori, mais demain ça peut aller moins bien et c'est... donc du coup il faut anticiper.
Laurent, c'est la règle d'or. Ce qu'on fait chez le notaire, c'est surtout pas pour quand ça va bien, c'est pour envisager ce qui pourrait se passer quand ça ira mal.
Voilà.
Mais je tiens quand même à préciser que le régime légal de la communauté d'achat est un super régime. Voilà. C'est 80% des époux mariés en France.
Oui, et c'est ça que vous voyez comme tendance? On fait de plus en plus de contrats de mariage ou pas?
Mais il y a des remariages aussi quand même. Donc à partir du moment où il y a
des chats échaudés, quoi.
Très souvent, il y a des petites questions qui viennent à l'esprit des futurs remariés. Ouais.
Et maître, est-ce qu'il y a des professions qui sont plus concernées que d'autres par la nécessité de bien tout mettre en ordre avant de se marier?
Ça, c'est une bonne question. Pourquoi? Parce que supposons quelqu'un qui a ce qu'on appellera une profession à risque, c'est-à-dire qui est indépendant. S'ils font les plombs, eh bien la totalité des biens communs, s'il est marié sous le régime de la communauté, peuvent être engagés. Alors que s'il est marié sous le régime de la séparation, seuls ses biens personnels sont engagés. Vous voyez une petite différence à ce niveau-là.
Merci beaucoup, Boris Vienne, d'avoir été avec nous.
C'est moi qui vous remercie. Et je voudrais juste dire à Emmanuel Le Chip que je suis vacciné. Voilà.
Ah, ça c'est bien. Lui aussi, bravo. Et nous aussi. Tout le monde est vacciné sur ce plateau avec sa double dose. On peut montrer les certificats si jamais on nous les demande. Merci, Boris Vienne, d'avoir été avec nous. Vous posez vos questions au notaire sur Direct Studio. Ils y répondent tous les vendredis. C'est la fin de Demain Le Chip pour aujourd'hui. On se retrouve lundi sur RMC, tous ensemble sur RMC Story. On vous dit à bientôt. Vous aurez à partir de la semaine prochaine vos programmes d'été. C'est l'heure de retrouver Intégral Tour avec Christophe Cessieux pour parler Tour de France.
RMC, midi 14h.
Demain Le Chip.